La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Les cachalots, les plus grands carnivores de la planète. De tous les géants des mers, ces animaux sont probablement ceux qui suscitent le plus la fascination. Depuis quelques années, des scientifiques passionnés et tenaces plongent avec une même famille de cachalots. Ils commencent à lever le voile sur les secrets de leur communication.
Extrait du documentaire d'Arte, le clan des cachalots auquel vous avez participé. François Sarano, vous qui êtes océanographe, plongeur et fondateur de l'association Longitude 181. Vous avez été, je le rappelle, le conseiller scientifique sur la Calypso aux côtés du commandant Cousteau et également co-scénariste du film Océan de Jacques Perrin. Et donc maintenant, vous poursuivez toujours le travail d'observation, d'études scientifiques autour de ce clan de cachalots qui se trouve où exactement alors?
À l'île Maurice, ouais. C'est le clan de la matriarche Irène Gueule Tordue, et on l'étudie avec une association locale qui est la même CO et puis bien d'autres universités.
Qu'est-ce qu'elle a sa gueule, à Irène?
Elle est tordue, complètement tordue sur la droite.
C'est une malformation?
C'est une malformation, et mais qui ne l'empêche pas de manger correctement. Elle est une des plus grosses et les plus fortes. En tout cas, elle dirige le clan.
Ils sont combien dans ce clan?
Alors, on a 17 femelles adultes et aujourd'hui 11 jeunes. Lorsqu'on a commencé l'étude, il n'y avait que 17 femelles adultes. C'est-à-dire que la croissance du clan est près de 60% au cours des 10 dernières années. C'est remarquable.
17 femelles adultes et 11 jeunes, les mâles, ils passent et ils partent. C'est quoi l'idée?
Extraordinaire. Les mâles, à maturité sexuelle, vers la 10e année, on ne le sait pas exactement, vont quitter le clan maternel et ne plus jamais y revenir. Ils vont partir dans les eaux froides du sud ou du nord lorsque c'est dans l'hémisphère nord, ici nous vers Kerguelen, Crozet, attendre leur 20e année et revenir dans les eaux chaudes où séjournent les clans matriarcaux, les clans de femelles, pour s'y reproduire. Et jusqu'alors, on n'avait pas démontré véritablement la liaison entre les deux. Mais l'analyse génétique que nous sommes en train de faire montre ces liens, car nous avons trouver le père de notre petite Lana qui naît dans la nuit du 20 au 21 février 2019.
Mais ça veut dire qu'ils viennent se reproduire et après, ils se barrent.
Beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup mieux. On croyait que c'était ça. Mais en fait, ils reviennent régulièrement dans les clans où ils ont des descendants.
Ah.
Non seulement ils reviennent régulièrement assez longtemps, mais ils sont accueillis, ces grands cachalots mâles.
Comment ?
Ils sont accueillis parce que tout le clan se rassemble et parce que les jeunes, jeunes mâles, petites femelles et adultes viennent se frotter à lui et l'écouter.
C'est le retour de tonton Cristobal, quoi, quasiment, non?
Oui, mais tonton Cristobal, peut-être que certains étaient jaloux parce qu'il était riche.
Ah ouais.
Là, ils ne sont riches que de savoir. Et ils se mettent en chandelle et tout d'un coup, on entend... Et tous les petits se rassemblent et descendent sur la tête des grands mâles, comme pour mieux écouter.
Alors, on va écouter justement les sons, parce que vous les faites très très bien, François Sarano. Ouais. Mais on a les vrais sons de cachalot, figurez-vous, parce que nous, on a tout ce qu'il faut à la Terre au carré, donc les voici... Voilà, il y avait un petit florilège. Hein. Il y avait trois sons différents, là, justement. Vous les avez reconnus, évidemment, François Sarano.
Il y avait trois sons différents. Le premier que nous avons attendu, c'est ce qu'on appelle un buzz. C'est lorsqu'un cachalot vient vers un autre cachalot, ou vers le plongeur, en l'occurrence ici le plongeur, l'enregistrement qu'on a fait avec une caméra, et il vient l'explorer. Parce que ils ne nous perçoivent pas, ils ne perçoivent pas leur environnement avec leurs yeux, qui sont sur les côtés, qui y voient, mais pas très bien. Ils perçoivent leur environnement, comme les sismologues, avec l'écho, voilà. Ils émettent des sons, et ils écoutent l'écho que se sont faits en rebondissant sur l'obstacle qu'il y a devant eux. Et ainsi, ils perçoivent ce qu'il y a devant eux. Mais on ne sait pas très bien comment ça se traduit, comment ils analysent ça, comment est-ce qu'ils nous voient, nous, les plongeurs? Est-ce qu'on est juste une sorte de réflecteur un peu souple, le cœur qui bat? Je ne sais pas très bien. Mais personne ne sait.
Le deuxième son?
Alors, le deuxième son, il y a eu une coda qui a été suivie d'un buzz. La coda, c'est une expression sonore qui est utilisée le plus souvent pour communiquer et souvent faire une demande de contact physique. Lorsque l'autre répond... Alors les deux cachalots se rejoignent et se font un gros câlin. Et le troisième, les tout petits clics, C'est des sons qui marquent la chasse dans les profondeurs. Ce sont les sons qui sont émis pour que les cachalots entendent les échos et voient leur proie dans la nuit des profondeurs, à 1000 mètres, 1500 mètres. Et ce qu'on a montré, que le professeur Glotin a montré, c'est que ces échos, ces sons n'étaient pas mis au hasard. Les cachalots les émettent alternativement les uns les autres pour profiter de l'écho de son émis par le voisin. Et donc, ils ont une vision stéréoscopique du fond. C'est ça qui est formidable.
Donc, vous êtes en train de décrypter le langage des cachalots ?
Décrypter. On est en train d'associer les émissions sonores avec des individus et avec donc des comportements. Et ça, c'est une première au monde, parce que l'appareil que, toujours avec le professeur Glotin, nous avons mis au point, est un appareil qui permet de pointer du doigt l'endroit où est émis le son, et donc de pointer du doigt la tête du cachalot qui émet le son. Et ça, c'est une petite révolution, parce qu'on va pouvoir avancer vers la signature sonore individuelle. Mmh. Et on va pouvoir peut-être reconnaître les animaux, rien qu'en entendant leur...
On imagine qu'à même l'âge, un petit cachalot, il va avoir un langage particulier avec son père, alors, par exemple, quand il va le retrouver, ou avec sa mère.
Alors, avec son père, je suis pas sûr qu'il sache qui est son père. Hein. Sa mère, très probablement, puisqu'il vit avec elle pour un mâle au moins jusqu'à 10 ans, et pour les petites femelles, pratiquement toute leur vie. Mais on sait que le son varie avec la taille du cachalot. Hein, le clic n'est pas le même, parce que émis à l'avant de la tête, il doit traverser la tête et faire un aller-retour pour pouvoir être émis à l'extérieur. Et cet aller-retour change la nature du son. Hein, et on travaille là-dessus, et on est en train de faire, à l'instant même, une correspondance entre la nature du clic et l'âge du cachalot. Et dans 2 semaines, nous aurons ça, on pourra vous dire, incroyable. Tiens, ce clic, ah, ce petit cachalot, mais il a 6 mois. Incroyable. Ah, mais celui-ci, il a 2 ans et demi.
Ouais. Combien de temps ça vit un cachalot? Vous avez dit que les petites femelles passaient toute leur vie avec leur mère. Ça vit combien de temps un cachalot, en gros, et comment ça meurt?
Alors, pour la première fois au monde, on suit des petits depuis leur naissance. Dans 70 ans, je reviendrai vous donner la réponse.
Ah ben voilà,
aujourd'hui,
pas,
nous n'en savons rien. On sait simplement que ces animaux vivent probablement très vieux, 80, peut-être 100. Je ne sais pas.
Et
Personne ne sait vraiment.
Ça meurt, ça, à part quand il y a des accidents, mais ça meurt de vieillesse, sinon
Vraisemblablement, de vieillesse, de maladie. Les cachalots, les grands adultes, sont très très puissants. Hein. C'est des animaux qui redoutent peu de prédateurs.
Tout à l'heure, vous racontiez donc les sons qu'ils émettent quand il y a un obstacle comme un plongeur. Donc ça vous est déjà arrivé. Quel effet ça fait d'être dans l'océan et d'avoir un cachalot à côté de soi?
Alors d'abord, on ressent profondément le... parce que l'onde est très puissante lorsqu'il est à côté. Et on le reçoit vraiment dans la cage thoracique.
Ah, hein. C'est physique,
C'est physique, ah ouais. On le sent. D'ailleurs, on estime que cette émission sonore n'est pas simplement pour nous repérer, mais aussi peut-être pour envoyer une sorte de caresse. Ils se caressent entre eux. C'est quelque chose qui est très sensitif, sensible. Qu'est-ce que ça fait d'être en face d'un cachalot? Mais juste du bonheur. Quand un cachalot vient vers vous et vous invite, mais vous êtes dans un moment de paix incroyable.
Ouais. Et vous dites que c'est sans formidable. Intérêt en plus, hein. C'est pas intéressé du tout, c'est-à-dire qu'il vient
vous
voir. Non,
il vient sans contrepartie. Mmh. Il vient satisfaire sa curiosité d'une part.
C'est impressionnant quand même.
Il vient nous étudier. Et puis, lorsqu'il nous interpelle en utilisant des codas, dans son langage, il essaye de nous demander un câlin, donc de nous apprivoiser. Ça veut dire qu'il y a d'autres espèces que la nôtre qui a envie d'apprivoiser l'altérité, la différence. Il n'y a pas que nous qui avons envie d'apprivoiser les écureuils ou les petits animaux.
Est-ce qu'ils vous reconnaissent, ces cachalots, ce clan-là particulier que vous étudiez maintenant depuis plusieurs années, quand vous revenez, est-ce qu'il y a des manifestations particulières qui vous laisseraient entendre qu'ils vous reconnaissent?
Mais il n'y a aucun doute. On ne se pose pas la question pour un chien ou un cheval. Même s'il a vu une seule fois une personne, ouais. Il la reconnaîtra. Et ces animaux, les animaux sauvages en général, qui ont les sens, qui sont tendus complètement pour reconnaître leur environnement, nous reconnaissent certainement. Maintenant, comment nous reconnaissent-ils? Qu'est-ce que nous sommes pour eux?
Une odeur,
ça, c'est une autre question. Alors, pour les cachalots, je pense pas, ce serait des requins, hein, ce serait certainement odeur et vibration. Mais pour les cachalots, je ne sais pas sous quelle forme ils nous perçoivent. Et je ne sais pas quelle est leur reconnaissance. Mais ils nous reconnaissent, il n'y a aucun doute.
Le clan donc, que vous étudiez régulièrement depuis des années, ça veut dire qu'ils ne bougent pas géographiquement? Les cachalots ne font pas beaucoup de kilomètres? Comment ça fonctionne?
Les clans de femelles et de jeunes restent d'abord dans les eaux tropicales et souvent dans les lieux où il y a beaucoup de calmars, ils ne font pas de grands déplacements. Ils font une cinquantaine, centaine de kilomètres par jour pour aller d'une zone de pêche à une zone de repos. Parfois, ils peuvent faire un petit peu plus. Par exemple, certains cachalots de l'île Maurice vont jusqu'à La Réunion, ils vont jusqu'à Rodrigue, ils reviennent.
C'est dur de les repérer.
Ça, c'est
alors
les
quand
clans,
vous y allez.
Les clans matriarcaux. Ouais. En revanche, les grands mâles font des dizaines de milliers de kilomètres parce qu'ils vont de l'île Maurice à Kerguelen-Crozet, ça a déjà 3000 kilomètres, ils reviennent, ils font encore 3000 kilomètres, mais peut-être vont-ils jusqu'à Sri Lanka, 3000 kilomètres plus au nord.
Et comment
vont faire Pardon, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas quand
alors,
ils font ces grands
voyages ? Dans le sud, ils vont manger des grands calmars et des légines, ces gros poissons que nous-mêmes nous allons pêcher dans ces eaux subantarctiques. Et puis, dans les eaux tropicales, on pense qu'ils viennent à la fois se reproduire, et nous pensons très sérieusement aujourd'hui qu'ils jouent un rôle social, bien qu'ils soient peu présents dans les clans où ils viennent régulièrement, ils apportent de l'information, ils échangent beaucoup. Par conséquent, le rôle social des mâles, qui était peu connu jusqu'à présent, c'est une des grandes questions qui nous anime aujourd'hui.
Et alors, pardon, je reviens, mais comment faites pour tomber sur eux? Parce que bon, même s'ils font pas 50, 100 kilomètres, c'est quand même vaste, c'est profond. Comment vous savez que vous allez les voir et vous allez...
Alors, nous écoutons les sons qu'ils émettent lorsqu'ils chassent. Et nous avons à bord Oreille d'Or, c'est Navin Boudouni, le capitaine de notre bateau, qui, mais oui, il met dans l'eau son écouteur et en écoutant, il y a 3 cachalots qui sont dans le sud-ouest à 2,5 000. Et hop, nous filons dans le sud-ouest à 2,5 000 et nous prenons les jumelles et lorsque il souffle, alors nous les découvrons et nous nous mettons à l'eau. En revanche, parfois, ils dorment. Pas de son.
Alors, décrivez-nous le dortoir des cachalots, parce que ça, c'est un des trucs les plus beaux que vous ayez décrit, je trouve, à leur sujet.
Alors, le dortoir des cachalots, vous êtes dans le bleu, il y a 1500, 2000 mètres sous vos palmes, et là, devant vous, une dizaine de menhirs de plus de 10 mètres de haut, suspendus dans l'épaisseur liquide, immobile, c'est le plus souvent la tête vers le haut. Et comme nous allons vers eux avec bienveillance, avec respect, patience, lentement, alors nous pouvons nager entre ces menhirs. Ils nous acceptent. De temps en temps, l'une d'elles, parce que ce sont les grandes femelles, ouvre un œil, clignote un peu comme ça et se rendort. Allez. Et nous sommes au milieu de ce carnac naturel. Et soudain,
c'est un carnac de cachalots.
Remonte lentement, respirer vers la surface, sans aucun mouvement. Il remonte, il laisse sortir son évent, il prend une inspiration et il coule et il vient se rendormir.
Ça dort combien de temps?
Alors, ça dort par phase d'une dizaine, une quinzaine de minutes. On n'a pas très bien mesuré, c'est un ordre d'idée.
Et il y a des cycles alors, où ça n'a rien à voir avec la lumière, j'imagine, vu la
profondeur. Non, parce qu'ils chassent beaucoup la nuit et ils chassent aussi le jour. Un peu plus profond le jour parce que les calmars sont plus profonds, ils vont jusqu'à 1000, 1100 mètres de profondeur. La nuit, c'est plutôt 500, 600 mètres de profondeur parce que les calmars remontent. Et ils chassent pendant une heure environ, ils font on estime, une douzaine, une quinzaine de chasse par jour, et le reste du temps...
Ils dorment en même temps beaucoup.
Alors, pas toujours. Comment feraient les petits s'ils n'étaient pas surveillés et que tous les parents dorment en même temps? Ils seraient à la merci des prédateurs. Eh bien, certains d'entre eux, les nounous ou la babysitter, s'occupent des petits pendant que les adultes soit chassent dans les profondeurs, soit, au contraire, dorment. Et c'est grâce à l'analyse génétique faite par Justine Girardet et le professeur Jung, là, sur notre dernière publication, que l'on a pu montrer le rôle des nounous. Et parce qu'il faut bien savoir qui est la mère pour savoir qui est la nounou. Et voilà, il y en a découvert la babysitter Germine qui s'occupe de tous les petits et garde la crèche, et les nounous allaitantes qui ne s'occupent que d'un seul petit et qui va l'allaiter et le nourrir.
François Sarano, j'ai mis sur le compte Instagram sur en story les photos du dortoir, justement des cachalots extraits de votre livre Le Retour de Moby Dick chez Actes Sud, où on pourra justement voir à quoi ça ressemble ces menhirs là qui dorment paisiblement. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré.
Merci beaucoup.
Très bon week-end à toutes et à tous et à lundi, Camille.
À lundi, bon week-end.
Vous aimez ce podcast? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.